Radio Capi.
Oh, Capi.
À la présentation du journal, Pierrot et la Mégie.
Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Destitué par une motion de censure votée par l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté sa démission au chef de l'État ce vendredi selon l'article 147 de la Constitution. Vous suivrez le Premier ministre Ilunga Ilunkamba en début de ce journal. En Ituri, une centaine de miliciens de la Codeco lourdement armés ont envahi depuis jeudi soir une partie du carré minier de la compagnie Mungwalu dans le territoire des Djougou. Les services de sécurité tentent de persuader ces hommes armés à se retirer, mais sans succès. Madame Berthe Tchekanabo, chef de la division provinciale de la justice au Nord Kivu, qui a conduit une mission conjointe à Nyongera, une concession pénitentiaire située dans le territoire de Rutshuru, sera avec nous avant la fin de ce journal. Elle est notre invitée. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre ce journal mis en onde par Alain Goy. Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté sa démission au chef de l'État ce vendredi. Cette démission est consécutive à la motion de défiance votée contre lui et son gouvernement mercredi dernier par la plénière de l'Assemblée nationale. D'après les sources proches de la primature, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale lui a transmis ce vendredi le courrier les notifiant sa déchéance ainsi que de tout son gouvernement. Dans sa lettre, le président du bureau d'âge, Christophe Mboso Nkodiapuanga, a demandé au Premier ministre de présenter sa démission et celle de son gouvernement auprès du chef de l'État dans le 24 heures conformément à l'article 147 de la Constitution. On écoute Sylvestre Ilunga Ilunkamba au micro de nos confrères de la Radio-Télévision Nationale Congolaise dans un extrait choisi par Richard Junior Kamunga.
Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là. Et conformément à la Constitution, de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement.
En Ituri, des miliciens de la Codeco lourdement armés accompagnés des centaines d'orpailleurs ont envahi depuis jeudi soir une partie du carré minier de la compagnie Mungwalu dans la cité minière qui porte le même nom dans le territoire des Djougou. Selon la société civile locale, ces miliciens exploitent de l'or pour leur survie dans cette zone interdite aux orpailleurs et qui est généralement sécurisée par les policiers. Les services de sécurité tentent de persuader ces hommes armés à se retirer, mais sans succès. Isaac Remoyope.
Ils sont environ 100 miliciens bien armés qui occupent depuis jeudi soir les sites miniers dénommés Foyer 17, Landa et Djanga Foli dans la zone d'exclusion de la compagnie Mungwalu Gold Mining MGM. Selon la société civile locale, ils ont mobilisé des centaines de jeunes qui creusent de l'or pour leur compte, à verser une partie de leur production. D'autres creuseurs artisanaux qui n'avaient pas accès à ces périmètres ont également profité pour y exploiter de l'or sous l'encadrement de ces hommes armés qualifiés de sauveurs. Baby Anecho.
Monde là-bas. Il était là-bas, vous travaillez, vous sortez, ou bien dit qu'on est un collier. Et il crée trois ou bien quatre là, dans leur compte. Il dit que même la force arrive, on doit s'approcher avec les forces parce que, ils sont affamés, il n'y a pas d'emploi ici à Mungwalu.
Des éléments de la police commis à la garde de la concession de MGM et ces miliciens se regardent à chien défaillance. Le bourgmestre de la commune de Mungwalu signale que les tractations sont en cours pour convaincre ces miliciens à quitter volontairement cette zone d'exclusion. Jean-Pierre Bikilisende.
Nous sommes en train de leur parler pour leur démontrer que là c'est une concession d'autrui et que jusque là même nos forces de l'ordre sont en train d'observer. Nous continuons à leur parler pour qu'ils reviennent à la raison.
Une panique s'observe dans cette entité minière car la population redoute des affrontements entre les forces de l'ordre et ses assaillants de la Codeco. Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste inquiétante dans la région de Kashuga, à 22 km de Kichanga, dans le groupement Bachali Mokoto. C'est dans le territoire de Masisi. La population vit vit dans la peur au quotidien à la suite des menaces des groupes armés qui entourent cette localité. C'est le constat fait par le président de la société civile de la chefferie de Bachali qui s'est rendu sur place mercredi au lendemain de l'attaque de mardi de ce village par des hommes armés. Sifa Maguru pour les détails.
D'après Tobiloa Kiokahangu, plusieurs facteurs expliqueraient la dégradation de la sécurité dans ces milieux. Il s'agit notamment de l'insuffisance des agents des forces de sécurité et une situation qui favorise la libre circulation des miliciens dans les villages. De plus, il déplore l'éloignement des positions des FARDC du site des déplacés de Rujagati, qui héberge au moins 6000 ménages venus de Masisi, Bwito et Walikale. Du coup, les rebelles ont accès libre pour mener des attaques à répétition contre les déplacés. À cela s'ajoutent les difficultés de cohabitation entre les autochtones et les déplacés dans cette région, sans compter l'impuissance des forces de sécurité présentes face aux groupes armés.
Toutes les collines qui se retombent à Kashuga, c'est là qu'érigent les camps de miliciens Natura MC de Domi. Là-bas, vraiment, la population est abandonnée par le gouvernement. Il y a les FARDC qui sont là. Il y a aussi la PNC qui est là. En heure, et là, les miliciens circulent toute la journée.
Cet acteur de la société civile encourage la population de Kashuga à toujours dénoncer les malfaiteurs, mais aussi à l'armée et à la police d'assumer leurs responsabilités en sécurisant la population. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au Nord Kivu encore, 3 morts, dont 2 par balle et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un conflit des limites qui a dégénéré le mercredi et jeudi dernier entre la chefferie des Bachouaga et celle des Batangui dans les territoires de Lubero. Des sources administratives locales affirment qu'un calme apparent règne ce vendredi sur les lieux de l'incident, mais un déplacement de quelques habitants est signalé. Sadiki Aboubakar pour les détails.
L'incident s'est produit à Mutuamba, un village situé à la limite entre la localité de Vukendo du côté de la chefferie de Bassoa et de Vukununu du côté de la chefferie de Batangi. D'après Paluku Kuliumbwa, fonctionnaire délégué du gouverneur de la zone, le mercredi, un violent combat avec des armes blanches a opposé 2 familles représentant chacune l'une des 2 localités citées ci-haut. Un mort a été enregistré du côté de Vukununu et des blessés de part et d'autre. Pour se venger, la famille Vukununu est revenue à la charge le jeudi. D'après l'administrateur du territoire, les militaires FARDC sont intervenus pour éviter le pire. En tentant de disperser les membres de ces 2 familles en colère, 2 personnes, membres de la famille Vukendo, ont été touchées par balles et sont mortes sur le champ, affirme Richard Nyimbo Anyimbo. L'administrateur du territoire ajoute qu'un calme apparent règne à présent dans ces villages et toutes les 3 victimes ont été inhumées le jeudi après-midi. Pour l'heure, Richard Nyimbo Anyimbo promet de réunir les chefs des chefferies des Bassoa et des Batangi, plus leur notabilité en vue de statuer sur ces conflits. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
La première audience de l'année dans le procès des présumés meurtriers de 2 experts de l'ONU au Kasaï a eu lieu ce jeudi devant la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Une audience marquée par les prises des paroles de 2 prévenus, excédée par une nouvelle absence de plusieurs avocats de la défense. Les colonels Mambouini et Jean Bosco Mukanda ont exprimé leur colère face à ces absences répétées qui ne permettent pas au procès d'avancer rapidement. Compte rendu d'audience avec vous, Joël Bofengo.
Une audience écourtée du fait de l'absence des avocats de la défense, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce procès. 2 prévenus ont pris la parole aujourd'hui et n'ont pas caché leur exaspération face à une procédure qui dure depuis près de 4 ans. « Si ça continue comme ça, je vais me faire du mal », menace Jean Bosco Mukanda, l'ancien témoin vedette, accusé d'avoir participé au meurtre des Aïda Catalan et Michael Sharp en 2017. « Je souffre, monsieur le président. 2 ans et 6 mois de détention. Mettez-vous à ma place », déclare pour sa part le colonel Mambouini, qui peine à cacher sa colère, allant jusqu'à dire « La mort ne me fait pas peur, je risque de mettre fin à ma vie ». Faisant preuve de pédagogie, le président des séances reprend la parole et appelle les colonels Mambouini au calme. Le général Ntchaïkolo dit comprendre la frustration de l'officier, mais il l'enjoint de faire preuve de retenue devant la cour. S'adressant aux avocats, il leur demande de faire preuve d'humanité pour assister des prévenus dont certains sont en détention depuis plus de 3 ans. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
En Ituri, les structures sanitaires de la zone de santé des Komanda sont débordées par les malades composés essentiellement des déplacés qui ont fui les atrocités des groupes armés dans leur village dans le territoire d'Irumu. Selon les autorités sanitaires locales, les nombres des lits sont insuffisants et le stock de médicaments insignifiant pour répondre aux besoins de la population. Elles plaident pour l'amélioration des capacités d'accueil de ces structures et la dotation en produits pharmaceutiques pour aider ces personnes vulnérables. Isaac Remoyope.
La plupart des structures sanitaires situées sur l'axe Comanda-Luna dans la zone de santé de Comanda sont saturées par les malades composés essentiellement des déplacés de guerre venus du Nord Kivu et d'autres localités en territoire d'Irumu. C'est le cas des centres de santé de Bwanasura. Selon l'infirmier titulaire, cette structure reçoit 80 malades par semaine, dont 40 déplacés. Pour pallier à cette difficulté, des malades sont placés sur un seul lit avec les risques énormes de contamination. Il y a également les problèmes de rupture des stocks de médicaments. Il lance un SOS.
Des déplacés qui viennent de partir par là, et on se débrouille malgré la distanciation sociale, mais on essaie de mettre deux par lit. Ils ne savent pas comment payer les soins. Nous travaillons dans les liens vraiment. Le gouvernement peut nous aider, les partenaires peuvent prendre la charge de ces rescapés.
Le ministre provincial de la Santé indique qu'un projet de construction d'un nouveau bâtiment est en cours au centre de santé de Bwanasura, qui sera également doté de lits. Patrick Karamura ajoute que ces structures reçoivent également des subventions à médicaments pour la prise en charge gratuite des vulnérables.
Les lits sont en route, les lits déjà venu. On va équiper ce centre qu'on a construit là-bas à Lille. Il y a la salle d'opération, la salle d'accouchement, il y a l'hospitalisation. Nous sommes en train de nous battre pour les médicaments.
Pour une solution durable, un hôpital de référence sera construit à Comanda avec le financement de la Banque mondiale, annonce le ministre provincial de la Santé, Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, le ministre des Droits humains a procédé hier à Kisangani à la remise symbolique des fonds de réhabilitation provisoire aux victimes des guerres de cette ville. Cadre choisi pour cet événement, la place des martyrs. Ici, 50 personnes ont reçu d'entre les mains du ministre des Droits humains et du gouverneur des provinces des enveloppes contenant $150 américains. Plus de 3000 autres victimes recevront les leurs à travers la Caritas de Cézanne à partir de ce vendredi. Un reportage de Jacques Mokongolé.
Bien avant la remise symbolique de ces enveloppes, le ministre des Droits humains est allé déposer une couronne de fleurs au cimetière de la guerre des six jours. À la place des martyrs, le ministre en réalité a justifié le non-déblocage de la totalité des fonds initialement prévus par certaines difficultés, notamment celles liées à la COVID-19.
Ceci constitue une sorte de prélude aux réparations qui arrivent incessamment. En d'autres termes, il y a un solde que nous devons ramener prochainement.
Les bénéficiaires n'ont pas tari de l'eau envers le ministre des Droits humains, le député Simeno Asimene, ainsi qu'envers le chef de l'État pour l'accomplissement de cet acte de compassion, lequel est salué également par le gouverneur de province, Louis-Marie Walelufungula.
Comme vous le savez, pour le chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et aujourd'hui, il vient de démontrer à la face du monde qu'il se soucie réellement du sort de son peuple.
Cependant, pour certains activistes des droits de l'homme, l'argent à lui seul ne va pas résoudre le problème. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus.
Il faut que le gouvernement s'inscrivent dans la dynamique de la prise en charge holistique des besoins des victimes. On peut construire aussi à côté du cimetière des victimes de la guerre de six jours un monument avec les noms des personnes. Deuxième endroit, la place des martyrs.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, une hausse sensible des prix des biens de première nécessité est constatée à Kamituga dans les territoires de Mwenga. Les prix des biens sont passés du simple au triple dans une cité située à une centaine de kilomètres de la ville de Bunia. Cette hausse est justifiée par le délabrement de la route RN2 Bukavu-Mwenga. L'office des routes dit ne pas disposer de matériel nécessaire pour travailler cette route d'intérêt national. Emmanuel et la Mijoua Kabedi.
À ce jour, un sac de sucre qui se vend à $36 américains à Bukavu revient à $100 américains à Mwenga. Une bouteille de bière de 3000 francs revient à 10 000 francs congolais à Kamituga. Cette situation dépasse les habitants de Mwenga qui crient au secours.
Ici à Kamituga, présentement, la vie est tellement difficile. Il y a une flambée des prix qui n'a pas son nom. Un savon coûte actuellement 4500 francs.
Un sac de ciment coûte 150 000 francs. Auparavant, c'était 35 000 francs. Nous demandons la réhabilitation de la route nationale numéro 2.
La route nationale numéro 2 entre Bukavu et Mwenga est dans un état de délabrement très avancé. Les camions mettent plus de 2 semaines de calvaire pour atteindre la destination. L'office de route du Sud Kivu dit n'est pas disposé de matériel conséquent, mais aussi les intempéries s'y mêlent. Anissé Kakese, directeur.
Effectivement, l'office de route a un problème de matériel. Nos matériaux ont fait 10 ans, 15 ans, ça crée beaucoup de pannes. Mais tout ce qu'on attend le plus, c'est la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche est toujours perturbée, les pluies continuent. Mais espérons que ça va venir d'ici février.
L'office de route plaide également pour le retour au programme de cantonnage manuel pour l'entretien régulier des routes. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
On parle encore de hausse des prix, cette fois dans la ville de Matadi au Congo central, où en moins de 2 mois, le prix de la farine et du manioc vient d'être doublé sur le marché. Le sac bien rempli, appelé communément rallongé, passé de 50 000 à 100 000 francs congolais. Quant à la mesurette, elle se négocie à 1300 francs congolais au lieu de 800 francs congolais. Les motifs de cette majoration du prix de la farine et du manioc sont multiples. Les vendeuses ont énuméré ces motifs dans ce reportage d'Enana Plurich Mambou qui était à leur rencontre.
Le sac des cossettes de manioc vendu à ce jour à 100 000 francs s'est négocié jusqu'à mi-novembre au prix de 50 000 francs congolais. D'après ces vendeuses, le route des dessertes agricoles, eux-mêmes c'est d'intérêt national et provincial, situé dans les territoires d'où proviennent ces farines du manioc, sont fortement dégradées. Transporter cette denrée de ces endroits, notamment Sekebanza, Banzamateke, Luozi, ainsi qu'aux villages situés dans les secteurs de Gombe Sud jusqu'à Matadi, relève d'un parcours de combattants. Cette vendeuse raconte.
Cette
manioc du village jusqu'à Sekebanza, nous prenons des motos. Par sac, c'est 5 000 francs. Le véhicule n'y accède plus à cause de la mauvaise état des routes. Les ponts sont cassés. Si déjà au niveau des villages, nous dépensons plus de 45 000 francs, nous devons aussi vendre à un prix élevé. Si le gouvernement veut que le prix du foufou soit revu à la baisse, qu'il réhabilite les routes.
Chaque fois qu'il t'en a 20 000, à Bonsamanzela partout.
Avec le prix de la mesurette, communément appelée écolo, à 1300 francs, certaines ménagères croisées dans ces lieux de négoce craignent que cette augmentation du prix de la farine vienne accentuer les difficultés à nourrir les habitants de leur ménage. Seul espoir de ces commerçantes, c'est de voir les routes dégradées et le pont cassé qui se situe dans les territoires d'où proviennent ces cossettes de manioc et autres produits agricoles être réhabilités. De Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Lutte contre le coronavirus. Bruxelles a adopté un mécanisme permettant de contrôler les exportations hors de l'Union européenne des vaccins anti-Covid qui sont produits et empêcher la sortie des doses destinées aux Européens, a annoncé vendredi le commissaire européen au commerce Valdis Dombrovskis. La Commission européenne, sous pression après l'annonce de retard des livraisons d'AstraZeneca, a adopté vendredi une réglementation soumettant le vaccin à une autorisation d'exportation opérée par les États membres afin d'avoir des informations exacte sur la production des vaccins et savoir où les entreprises veulent les envoyer, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.
L'invité.
C'est Madame Berthe Tchekanabo, chef des divisions provinciales de la justice au Nord Kivu, qui a conduit une mission conjointe composée de la délégation du ministère de la Justice et services pénitentiaires, de la Défense, ainsi que les partenaires financiers de la MONUSCO, du PNUD, entre autres à Nyongera. Nyongera est une concession pénitentiaire située dans le territoire de Rutshuru. Quels ont été les contours de cette mission? Réponse dans cet entretien qu'il a accordé à Mathieu Ilunga Chambouyi.
Madame Berthe Tchekanabo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes chef de division provinciale de la justice et vous vous retrouvez à Nyongera, un ancien camp de détention et une concession pénitentiaire située à plus de 75 km de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui motive votre visite dans cette concession pénitentiaire?
On est venu ici avec la délégation du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, ainsi que les partenaires techniques et financiers, entre autres la MONUSCO, la section d'appui à l'administration pénitentiaire, ainsi que le PNUD, pour voir l'état ou faire l'état des lieux du camp de détention de Nyongera. Et aussi avec les partenaires, voir comment réhabiliter les bâtiments qui sont dans une situation inhabitable. Et aussi, le projet est si grand et on est en train de penser comment mettre encore en mouvement les camps de détention en y plaçant les détenus qui peuvent se prendre en charge et aussi exercer plusieurs activités de réinsertion sociale. Raison pour laquelle on est là, mais dans l'entretemps aussi, on a eu à pouvoir présenter à la population le nouveau directeur du camp de détention, parce que après le décès du directeur Zirimani, qui nous demandons la paix à son âme, l'hiérarchie n'a pas affecté jusque-là. C'est maintenant qu'on vient d'affecter un fils digne du terroir à la personne de Allégresse Kongolo pour essayer de faire chaque fois les relais des rapports sur l'état du camp de détention des Nyongera. Nyongera.
Madame chef de division, en quoi va consister les travaux sur les sites du camp et de la concession pénitentiaire de Nyongera?
Il y aura les autorités qui viennent se prégner de l'état des lieux. On va faire la visite de ces bâtiments et par la suite, ils vont discuter avec les partenaires techniques et financiers la réhabilitation, mais aussi l'utilisation de ces bâtiments pour y abriter les détenus pour la réinsertion communautaire.
Il y a une catégorie de gens qui habitent le camp et exploitent la ferme ou la concession pénitentiaire. Quel sera leur sort? Ils seront chassés ou qu'est-ce qu'on va faire de ces déplacés?
On n'a pas dit qu'on va chasser personne parce que la population, ce qu'on va faire, c'est pour l'intérêt de la population. Il y aura de ces activités qui seront bénéfiques à la population et par conséquent, l'État congolais est le patron de la population et ils ne peuvent pas encore une fois chasser la population. Mais seulement que ils doivent exploiter tout en sachant très bien que c'est un cas de détention de Nyongera qui a le patron qui est l'État congolais.
Mais il semble que qu'à un certain moment, cette concession a été départagée en sections, ce n'est pas au complet comme ça était dans les temps.
Raison pour laquelle on est là pour l'état des lieux, on ne peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux parce qu'on n'a pas une situation, on n'a pas un rapport. Vous comprenez avec moi que ça fait 3 ans que le directeur Zirimani était là et qu'il a été abattu dans sa résidence avec sa femme et personne ne nous fait plus rapport. Raison pour laquelle on place la personne qui va nous faire un état des lieux, qui va donner la situation réelle à la hiérarchie et nous allons remonter les rapports acquis de droit et c'est là où on peut se dire s'il y a spoliation ou pas. Mais pour le moment, on ne connaît rien, on vient voir qu'est-ce qu'on pourra faire en termes de projet, en termes d'appui par les partenaires qui nous ont accompagnés.
On a loti même la concession. Même. C'est ce qui va permettre à nos partenaires de pouvoir évaluer par rapport au terrain et qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme appui. Parce que si on va réhabiliter, ils doivent comprendre les résultats qu'ils attendent par rapport à la réhabilitation. Et si on mettait nos frères, nos sœurs qui seront en situation de privation de liberté, ils doivent comprendre s'ils cultivaient un lopé de terre, ils peuvent quand même survivre par rapport à la... C'est ça l'objectif. Ce n'est pas qu'on veut s'opposer à ce qui existe. L'administration, il est indivisible. C'est la continuité. Mais on doit comprendre et on doit insérer aussi des projets qui seront bénéfiques à la population dans sa globalité, mais aussi aux services. Et de travailler en collaboration, donner des informations pour documenter les rapports d'état des lieux. Parce que nous avons besoin de toutes ces informations dans un document. Et c'est le document qui va permettre à ce que les ministères puissent partager les informations avec le partenaire technique et financier. Parce que nous-mêmes, on ne peut rien. Voilà.
Madame Passy, nous vous disons merci.
Merci, monsieur et madame.